Voilà, nous allons continuer donc notre réflexion sur l'espérance chrétienne. C'est une série courte que je vais vous faire en trois volets. Nous avions parlé des fondements de l'espérance. Nous avons aussi parlé de l'espérance personnelle, qu'attendre quant à la vie, quant à la mort, par l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous allons maintenant, aujourd'hui, parler un peu plus de la dimension plus large de l'espérance, avec l'idée d'un monde nouveau qui est offert aussi à notre espérance. L'espérance d'un monde nouveau, c'est le thème de notre réflexion de ce matin. Je vous invite à lire plusieurs textes. Le premier se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 18. Romains 8, à partir du verset 18. J'estime, dit l'apôtre Paul, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Jusqu'ici, notre lecture. Et nous reportons maintenant à l'Ancien Testament. Et je vous invite à lire deux textes du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 51, verset 16 d'abord. C'est un court verset. Ésaïe 51, verset 16. C'est une parole qui est dite certainement à ce personnage qui est le serviteur de l'Éternel. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main, en étendant un ciel et en fondant une terre, en disant à Sion, tu es mon peuple. Et puis, pour cette idée d'une terre nouvelle dont Ésaïe parle, nous lisons au chapitre 65 à partir du verset 17. Ésaïe 65 à partir du verset 17. Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début. Ils ne remonteront plus à la mémoire. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus là de nourrisson vivant quelques jours seulement, ni de vieillard qui l'accomplisse ses jours. Car le plus jeune mourra à 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme quelqu'un de maudit. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vergers, ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne peineront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour l'épouvante, car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je leur répondrai. Ils pleureront encore que moi je les exaucerai. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. Jusqu'ici, notre lecture. Les textes que nous voulons de lire expriment bien la situation qui est la nôtre entre, d'un côté, une situation présente où nous soupirons, où nous aspirons après bien des choses, et l'espérance qui est là devant nous, qui nous est proposée. Nous sommes dans un entre-deux. Nous soupirons, dit l'apôtre Paul, avec un ardent désir, au cœur d'un monde soumis à la vanité, c'est-à-dire soumis à la fragilité des choses, à la souffrance, à la mort, à l'impermanence de toutes choses. Les choses, rien ne tient définitivement dans ce monde. Ce monde qui est en souffrance, ce monde qui est en désordre, ce monde où tant de choses semblent ne pas avoir de sens. Voilà la situation qui est la nôtre, et dans cette situation, nous soupirons et nous souffrons. Nous souffrons et nous soupirons, parfois parce que nous sommes nous-mêmes frappés de plein fouet par le mal. Nous soupirons et nous souffrons aussi parce que nous voyons l'état général et tant de souffrances autour. Mais ce soupir, nous dit l'apôtre Paul, n'est pas un soupir de découragement ni une exténuation. Ce n'est pas le dernier soupir de celui qui est à bout de souffle. Ce n'est pas non plus le soupir de dépit de celui qui n'a plus d'espoir. Ce soupir qui est le nôtre est un soupir d'attente, est un soupir d'aspiration, est un soupir qui, bien plus qu'un espoir, peut cultiver une espérance. Nous soupirons, oui, mais nous attendons, nous espérons le renouvellement de toutes choses. Nous attendons, nous espérons un monde pleinement renouvelé, radicalement transformé, où le mal ne sera plus, où l'on ne peinera plus en vain, où le lion habitera avec l'agneau, où il ne se fera plus aucun tort, parce que chaque parcelle de terre sera comme la montagne sainte du Seigneur. L'attente d'un monde nouveau, c'est ce qui fait notre espérance. Alors on sait que cette attente d'un monde nouveau a nourri bien des utopies. Lors de la découverte de l'Amérique, on a cru vraiment à la réalité du nouveau monde. C'est comme ça d'ailleurs qu'on appelait l'Amérique le nouveau monde. Et ce nouveau monde qui se développait a permis de développer, de rêver pendant tout un temps une société nouvelle où l'humanité pourrait pleinement s'accomplir parce qu'elle repartirait sur de nouvelles bases démocratiques, libérales. Il y a des morceaux de musique qui célèbrent cela. Vous avez peut-être déjà écouté la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Les écrits d'Alexis de Tocqueville au XIXe siècle témoignent aussi de cet idéal qui enflammait les esprits. Un nouveau monde, un nouveau commencement. Le marxisme a fait la même promesse, à partir plutôt de la perspective d'un renversement de l'histoire, suite à la révolution qui pourrait aboutir à une société sans classe. L'attente d'un nouveau monde, l'espoir d'un nouveau monde, ces utopies qui ont habité bien des personnes, bien des générations, ont connu bien des désillusions. Et on peut dire que notre XXe siècle a été le siècle de la désillusion et du démantèlement de ces utopies. Et nous devrons faire face à la réalité d'un monde d'injustice, d'un monde d'égoïsme, d'un monde habité par la violence, d'un monde menacé dans ses équilibres naturels. Même les discours politiques qui gardent, bien sûr, il faut garder le registre du changement et tout cela, du monde meilleur, tout en utilisant ce vocabulaire, nous invite à ne pas trop y croire quand même. en théorisant le fait que la vérité d'une parole politique n'a pas à se juger à sa conformité avec le réel, mais ce qui compte, c'est que ce que le discours suscite en nous, et non la façon dont il se conforme à la réalité. Bien des gens aujourd'hui dans le monde soupirent bien plus qu'ils n'espèrent, et l'espérance en face du réalisme des situations se trouve parfois bien en panne. Et pourtant, l'espérance de quelque chose de mieux est quand même là au fond du cœur. Cette flamme demeure, parfois toute petite, comme disait Peggy, il disait que l'espérance, c'est la petite espérance dans toutes les vertus, c'est une petite vertu très très modeste, mais qui pourtant peut tout changer, tout réorienter. Et c'est vrai que cette petite espérance au cœur de la vie humaine reste l'un des moteurs de l'existence humaine. C'est ce qui permet, entre autres, le courage d'être dans ce monde si difficile. Et pour nous, cette espérance, elle se rattache à un nom, à une œuvre, le nom de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ, manifestée dans la chair, mort pour le péché du monde, ressuscité, victorieux, élevé à la droite de Dieu, et dont nous attendons le retour en gloire pour opérer le renouvellement de toutes choses. On rappellera quand même, sur cette question de l'espérance, que c'est la révélation biblique qui a apporté au monde cette vision d'une espérance qui se définit comme un avenir nouveau. Les aspirations païennes sont beaucoup plus marquées par l'éternel retour des choses. La vision non chrétienne du monde, c'est la vision d'un monde avec des cycles où on revient de manière permanente sur les choses, un peu comme le cycle des saisons où tout revient. On attend pour l'avenir ce qui a été au commencement. Ou alors, si on espère quelque chose, c'est de pouvoir fuir hors du temps. Les seules espérances qui ont une ligne portée vers l'avenir sont celles qui ont été au contact de la Bible, que ce soit le judaïsme, que ce soit bien sûr la foi chrétienne, ou ensuite l'islam qui a aussi intégré cette vision tirée de la Bible. La Bible est très nette à cet endroit-là. La Bible ne préconise pas le retour à la situation du commencement. Si on regarde juste la distinction entre la première et la dernière page de la Bible, la première page de la Bible parle de l'action créatrice de Dieu, elle parle d'un jardin. La dernière page de la Bible parle de la nouvelle création, mais la nouvelle création n'est pas un jardin. La nouvelle création, c'est une ville, c'est la nouvelle Jérusalem, une ville à l'intérieur de laquelle se trouve le jardin. Et tout cela dit le fait que l'histoire est intégrée. La ville, c'est aussi l'œuvre de l'homme, ce que l'homme construit. Le Seigneur vraiment utilise, le Seigneur a valorisé l'histoire qui est là, qui ne bégaye pas, qui ne revient pas, qui est linéaire. Donc cette idée d'une espérance et d'une espérance qui va vers un avenir différent, cette idée-là, elle est liée à la Bible, c'est la Bible qui l'a apporté au monde. Et nous voulons juste dire quelques mots là-dessus. Comment parler donc de cette espérance dans sa perspective large? Dieu vise un monde nouveau, un monde purifié de tout mal, pour la joie éternelle de ceux qui seront sauvés grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Avec quels mots décrit-on cette réalité nouvelle? Les mots qui conviennent pour en parler sont tous des mots très lumineux, très forts, des mots très englobants aussi. Le premier mot certainement qui revient, c'est le mot de gloire. C'est le mot de gloire. Paul contraste la souffrance des temps présents avec la gloire à venir. Il dit la souffrance des temps présents n'est rien comparée à cette gloire à venir. Romains 8, verset 18. Ailleurs, il dit « Nos afflictions du temps présent produisent un poids éternel de gloire hein, » pour dire voilà sur quoi tout cela va déboucher. 2 Corinthiens 4, verset 17. Lorsque Paul parle de la liberté des enfants de Dieu, cette liberté qui sera vécue dans la nouvelle création, dans le monde nouveau que le Seigneur apportera, c'est une liberté glorieuse. Il parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu dans Romains 8, verset 21. Le terme théologique par lequel on décrit cette dernière étape de la vie du chrétien parle aussi de gloire, puisqu'on parle de la glorification du chrétien. Et lorsque Paul anticipe le salut dans toutes ses étapes, il dit « Ce que Dieu a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. » Romains 8, verset 28. Et cela interviendra lors du retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus viendra, dit Paul dans 2 Thessaloniciens 1, verset 10, « Il sera glorifié dans ceux qui lui appartiennent, dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru. » Il nous faut saisir l'ampleur du mot. La gloire, c'est vraiment la gloire de Dieu, c'est la manifestation de toute sa grandeur, de sa beauté, de sa pureté, de son éclat. Ce qui est glorieux est éblouissant, est magnifique. Ce qui est glorieux est satisfaisant aussi, est apaisant. On ne s'en lasse pas, on le contemple sans cesse. C'est un ravissement. Et il est question même d'une réalité qui peut progresser de gloire en gloire. C'est un vocabulaire aussi de l'apôtre Paul. Et cela dit vraiment que l'émerveillement est renouvelé, toujours et encore. Et cela suffit une satisfaction profonde et toujours plus grande. L'aboutissement de l'espérance chrétienne a donc cette lumière et cette beauté. Et c'est bon pour nous de nous le rappeler. D'autres mots sont employés pour le décrire globalement, cet aboutissement. Ils disent l'idée aussi d'une pacification universelle. Paul, dans Colossiens 1, verset 20, parle d'une réconciliation de toutes choses avec Dieu, ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, une sorte de pacification totale avec Dieu. Ce qui frappe ici, c'est le langage de l'harmonie retrouvée. Mais d'une harmonie totale, d'une harmonie universelle, face à notre monde qui a tourné le dos à son Créateur, face à toutes les disharmonies criantes, blessantes de la violence, de l'injustice, quelle transformation que de pouvoir dire que tout cela sera réconcilié, pacifié en Dieu. En Éphésiens 1 également, Paul décrit l'aboutissement du projet bienveillant de Dieu. Et c'est, dit-il, de récapituler sous un seul, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Récapituler, ça veut dire donner une tête à tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, reçoit du Christ ce qui l'unifie. Tout cela est unifié, tout cela est remis d'aplomb à sa lumière, dans sa grâce, sous sa souveraineté. Et il y a là une unité nouvelle au monde qui trouve sa source dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et là encore, qui contraste tellement avec les soupirs de notre monde et avec ses dysfonctionnements ou ses souffrances. Voilà pour la couleur, la tonalité générale lorsque l'on parle de ce monde nouveau. Et il nous faut saisir cette idée que ce monde nouveau sera infiniment magnifique, infiniment grand, infiniment satisfaisant, et tout sera en plus. Le Seigneur trouve le moyen de dépasser même son œuvre initiale, même ce qui avait, et bien sûr de réparer tout ce qui avait été gâché par le mal. Deuxième question, après avoir dit cette nature en quelque sorte de ce monde nouveau sous l'aspect général. La question se pose, quel est-il ce monde nouveau? Et en particulier, faut-il le considérer comme étant le ciel? Faut-il le considérer comme étant quelque chose de plus terrestre? Espérance terrestre, espérance céleste. Lorsque l'on réfléchit au thème de la gloire de Dieu, ce qui est glorieux, la gloire de Dieu, et la gloire de son dessein, on trouve deux registres assez différents pour en parler. Un registre insistera beaucoup plus sur l'aspect terrestre de la gloire de Dieu, Un autre registre insiste sur l'aspect céleste de la gloire de Dieu. Première série de textes développe une vision de la gloire de Dieu très ancrée dans la réalité terrestre. Ce sont par exemple tous les textes d'Ésaïe, du grand texte d'Ésaïe sur la fin des temps et sur l'accomplissement des temps. Ésaïe présente cet accomplissement de la fin des temps comme ordonné autour de la montagne de l'Éternel. Il y avait la montagne de l'Éternel à Sion et tout le monde savait ce que ça voulait dire. Et Ésaïe dit « Viendra ce temps où la montagne de l'Éternel surpassera toutes les autres montagnes et toutes les nations se joindront pour recevoir du Seigneur sa bénédiction et l'instruction qu'il donnera. » Ésaïe 2, versets 3 à 4, « Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des hoyaux, de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Il y a là quelque chose de très concret, très terrestre, et qui dit une harmonie vraiment retrouvée autour de cette vie qui s'unifie autour de la maison du Seigneur, autour du fait que l'on marche selon les lois du Seigneur et que de Sion sort vraiment la loi et la bénédiction de Dieu. Alors cette annonce de l'accomplissement des temps, Ésaïe l'a fait d'une manière assez particulière, si on regarde l'ensemble de son œuvre. Il a écrit ses prophéties au départ dans une situation où il doit envisager le jugement pour Israël. Et sa première perspective, c'est d'annoncer le jugement et de devoir annoncer l'exil pour son peuple. Et c'est cela qui nourrit d'abord sa prophétie, ce qu'il doit dire. Mais ensuite, Ésaïe est appelé à voir beaucoup plus loin en disant « Il y aura un exil, oui ». Et lorsque le peuple sera en exil, d'une certaine façon, il sera dans une situation assez proche de celle qui était autrefois, lorsqu'Israël était en captivité en Égypte. Mais voilà que, comme autrefois, le Seigneur va étendre sa main et le Seigneur va agir. Le Seigneur va ramener de l'exil son peuple. Le Seigneur va faire ce qu'on pourrait appeler comme un nouvel exode. Il va faire ressortir des nations, son peuple, tout comme il l'avait fait sous Moïse autrefois. Il va tracer un nouveau chemin, comme il l'avait fait pour le peuple d'Israël autrefois. Et ce nouvel exode est vraiment un thème très porteur pour la pensée, toute la théologie du prophète Ésaïe. Et ce thème du nouvel exode va rebondir vraiment très fort dans sa pensée. Alors, dans un premier temps, quand on parle du nouvel exode, on parle du retour de Babylonie, des Juifs qui étaient captifs. Mais très vite, pour Ésaïe, ce thème du nouvel exode se construit encore plus loin. Le nouvel exode, c'est aussi le retour à Dieu par le salut que Dieu donne, et ça aussi c'est une délivrance d'un esclavage, et ça aussi c'est un nouveau chemin qui permet aux rachetés de l'Éternel de découvrir vraiment le salut et d'arriver à Sion avec des chants de triomphe et couronné d'une joie éternelle. Et il développe ainsi ce thème du nouvel exode comme le salut. Mais l'aboutissement de cette nouveauté où le Seigneur fait du neuf encore et délivre et apporte vraiment la nouveauté, l'aboutissement de ce thème et de cet exode, c'est la nouvelle terre. Il y a cette parole que nous avons lue dans Ésaïe chapitre 51 verset 16. Dieu s'adresse à un personnage qu'il a déjà décrit avant, qui est le serviteur de l'Éternel. Dans Ésaïe 49, Ésaïe avait décrit le serviteur de l'Éternel que Dieu couvre de l'ombre de sa main. Et à ce personnage très central dans le projet de Dieu, le Seigneur dit maintenant, Ésaïe 51, verset 16, nous l'avons lu, « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main, ça c'est pour dire c'est bien toi, le serviteur de l'Éternel, je le couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et pour fonder, pour planter une nouvelle terre et dire à Sion, tu es mon peuple. L'œuvre de ce serviteur est de dire la parole de Dieu, mais aussi de réaliser ce renouvellement complet, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et avec ce verbe un petit peu étonnant, tu parleras pour fonder, pour planter une nouvelle terre, comme si elle était appelée à se construire progressivement, à pousser, à grandir. Et nous avons lu la description de cette nouvelle terre dans Ésaïe 65. Je crée de nouveaux cieux, je crée une nouvelle terre, dit le Seigneur. Et la tonalité générale de ce texte d'Ésaïe 65 est de dire que finalement, Dieu crée cette nouvelle terre de telle sorte qu'on ne se rappellera pas de tout ce qui était mal avant. C'est ça l'idée directrice. Tout ce qui était mal avant, tout ce qui blessait tellement, tout cela ne sera plus. Et c'est ainsi que l'on décrit cette nouvelle terre. Je crée mon peuple plus pour la joie, dit le Seigneur. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de morts prématurées comme cela arrive sur la terre. Chacun accomplira pleinement ses jours. Il n'y aura plus de délai, plus d'attente lorsque l'on invoquera le Seigneur. Il n'y aura plus de frustration d'un travail vain dont on ne jouit plus. Il n'y aura plus d'hostilité. Le loup et l'agneau mangeront ensemble et il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte. C'est comme ça qu'on peut résumer d'une certaine façon cette description de la nouvelle création. Vous voyez la façon dont Ésaïe décrit cette nouveauté, c'est comme une réparation de tout ce qui a été mal avant. Il n'y aura plus tout cela. Avant, vous bâtissiez, vous faisiez des choses en vain, ça n'aboutissait pas. Maintenant, tout cela ne sera plus. Un changement magnifique, un changement restaurateur, un changement glorieux. On respire, tout mal est fini. Toute la frustration aussi qui accompagne le mal n'est plus. Ce thème de la vanité qui fait que ce que l'on fait n'aboutit pas, qu'il y ait tellement de choses qui se délitent, tout cela n'existera plus. La vanité à laquelle est soumise la création, comme l'une des conséquences du péché, cette vanité est levée et désormais tout prend vraiment, vraiment sens. Un contraste donc vraiment qui dit aussi une réparation par rapport à la situation dont on a tellement souffert. Et c'est donc avec ce contraste-là qu'Ésaïe dit la gloire de cette nouvelle création, la gloire et la nouveauté de cette nouvelle création. Alors c'est aussi pour ça qu'il a une figure de style assez particulière. Vous avez peut-être été étonné de voir qu'au verset 20, il dit « Le plus jeune mourra à 100 ans ». Alors on est un peu étonné, nouvelle création et il est question de mourir à 100 ans. Est-ce que la mort est encore là? Qu'est-ce qui se passe? C'est la nouvelle création. Il me semble que lorsque Ésaïe dit cela, c'est plutôt parce qu'il essaye de donner la nouvelle échelle des valeurs. Dans l'ancienne création, la mort pouvait intervenir et elle intervenait de manière inéluctable. Il y avait des morts prématurées, on pouvait mourir très jeune, nourrissons peuvent mourir. La nouvelle mesure est totalement différente. C'est de dire le plus jeune mourra à 100 ans. 100 ans de vie dans cette nouvelle création, c'est comme le temps de vie d'un nourrisson qui serait mort prématurément dans la création ancienne. Qu'est-ce que veut dire mourir prématurément? C'est avoir vécu quelques jours. Ésaïe dit ici, le plus jeune, celui qui mourrait dans ce cas-là, il aurait déjà vécu 100 ans. Et ça donne une échelle de valeur en disant, voilà, l'échelle de valeur est tout autre, ça n'a rien à voir avec ce qui était là autrefois. Et il dit ensuite... voilà, le plus jeune mourra à 100 ans et le pécheur âgé de 100 ans serait considéré comme maudit. Alors que veut dire cela? Il veut dire, si quelqu'un vivait seulement 100 ans, s'il vivait seulement 100 ans, on considérerait que c'est un châtiment sur lui. Pour dire vraiment, vivre 100 ans pour nous dans la création, c'est déjà magnifique. Mais là, dans cette nouvelle création, si quelqu'un arrêtait sa vie à 100 ans, on considérerait que c'est un pécheur maudit. Donc c'est pas pour dire qu'il y aura des pécheurs qui mourront à 100 ans, mais c'est pour dire l'échelle des valeurs est complètement renversée. L'échelle des valeurs est complètement renversée. Et c'est une façon négative de dire vraiment que il faut penser tout à fait autrement cette nouvelle création, mais Ésaïe le dit à partir des réalités de l'ancienne et pour dire que toutes ces réalités de l'ancienne, elles seront dépassées dans ce que Dieu fera. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on pourra mourir dans la nouvelle création, ni qu'il y aura encore des pécheurs, mais c'est une façon par contraste de dire voilà l'échelle nouvelle de ce que Dieu fera. Et la pleine révélation, quand on dit des choses avec un langage positif, de dire c'est la vie éternelle. C'est ça ce qu'Ésaïe dit en disant voilà, mourir à 100 ans, c'est mourir jeune, ce serait une punition. C'est pour dire ça part très loin. La vraie dimension de tout cela, c'est la vie éternelle. Donc voilà la façon dont Ésaïe décrit les choses ici, mais on a là une espérance très fondée sur une vie, sur avec Jérusalem, avec la nouvelle création et avec une vie très terrestre. C'est ça l'espérance qui est offerte. À cette ligne bien terrestre s'en superpose une autre lorsque l'on parle de la gloire et de la gloire de Dieu. C'est la perspective du ciel. Il y a aussi une vision très céleste de la gloire de Dieu. Le ciel, quand on pense au ciel, quand on parle de la terre et du ciel, souvent c'est la terre avec l'espace, le ciel bleu qu'on a au-dessus de nous quand il fait beau. Mais le ciel, dans son sens théologique, c'est le lieu où le Seigneur siège, où le Seigneur règne au sein de sa création. Lorsqu'on parle du Seigneur, on dit voilà, les cieux et les cieux ne peuvent te contenir, mais quand même, Seigneur, du lieu où tu habites, depuis le ciel, écoute notre prière et veuille nous pardonner. Et Jésus lui-même nous a invités, nous l'avons lu tout à l'heure, à prier notre Père qui es aux cieux. Alors, quand on parle du ciel dans ce sens-là, on parle vraiment d'un domaine de la création de Dieu où Dieu a choisi d'établir vraiment le rayonnement de sa gloire, d'établir vraiment sa présence et un lieu à partir duquel le Seigneur agit dans le monde et réalise tous ses plans. C'est là aussi que se trouvent les anges, le trône de Dieu, le temple céleste, toute la cour des êtres qui vivent dans la proximité la plus immédiate de Dieu. Il est question, à un moment donné, de l'armée des êtres célestes qui se tiennent près du Seigneur, à sa droite et à sa gauche. Il est question des myriades d'anges dans l'Apocalypse. C'est vraiment cela qui est le ciel de Dieu. Le ciel de Dieu, ce domaine où vraiment sa gloire resplendit totalement. C'est le domaine de la réalité invisible à l'œil humain, mais bien réel et éternel. Et l'apôtre Paul nous rappelle que toutes choses ont été créées par le Christ, les visibles et les invisibles, trône, souveraineté, pouvoir. Et ça nous rappelle qu'il existe cette réalité d'un monde invisible et d'un ciel glorieux qui se situe quelque part dans la création de Dieu. Certaines personnes ont eu des visions de ce ciel. Étienne, juste avant de mourir, a vu le ciel ouvert. Et l'Apocalypse aussi nous donne une ouverture. Apocalypse 4, je vis une porte ouverte dans le ciel et on voit les myriades d'anges, etc. Donc la Bible affirme avec force cette réalité qu'il existe un lieu dans la création, qui est le trône de Dieu d'une certaine façon. Alors on dit bien sûr que Dieu est beaucoup plus grand que le monde, qu'il ne se réduit pas au monde. Il est transcendant par rapport au monde, à la réalité. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Rappelle Salomon dans sa prière inaugurale du temple. Mais en même temps, on dit qu'il y a un lieu dans la création de Dieu où Dieu a fait son trône, son règne d'une manière plus particulière. Il y a un quelque part dans la création de Dieu où Dieu a choisi de faire sa résidence, d'exprimer quelque chose de sa gloire magnifique et irradiante, et à partir de là, d'accomplir ses desseins. Et c'est un langage qui est partout dans la Bible. On ne peut pas échapper à ce langage si on lit les textes, les psaumes, quand il est question du temple de Dieu qui est dans les cieux, quand il est dit que Dieu a établi son trône dans les cieux, quand il dit que du ciel le Seigneur agit librement, Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, dit les psaumes. Quand il est dit que du ciel il observe les êtres humains, qu'il donne ses ordres, qu'il fait du bien, qu'il intervient en faveur de son peuple, tout cela dit qu'il y a quand même, c'est pas juste une figure de style pour dire que Dieu dépasse toute chose, mais il a choisi de dire qu'il y a un endroit dans la création de Dieu où il fait sa résidence et à partir duquel il agit pour le monde. Et c'est très saisissant d'une certaine façon de dire que Dieu a voulu donner cette valeur à la création qu'il a faite, de dire c'est aussi dans cette création-là que je vais établir mon trône d'une certaine façon. Je ne vais pas me dire, elle est indigne de moi, j'ai besoin d'un truc complètement en dehors de cela. Dans la création même, j'établis mon trône pour vraiment accomplir mes desseins pour toute la création. C'est au ciel que Jésus est monté lors de son ascension, dans son corps glorifié. Acte 3, verset 21, une prédication de Pierre, il dit « Le ciel doit recevoir Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. » Et le livre de l'Apocalypse nous décrit le ciel comme étant en quelque sorte le quartier général de l'histoire de Dieu sur la terre. Lorsque le Christ est monté au ciel, c'est lui qui ouvre les sceaux de l'histoire humaine, qui détermine la suite, les séquences de l'histoire humaine, et c'est lui qui, du ciel, fait en sorte que tout se déroule sur la terre. Il est là, il est debout sur son trône, sur le trône, dans le temple de Dieu, sur le trône de Dieu, et c'est à partir de là que l'histoire humaine est conduite. Et la gloire de Dieu est là, présente et irradie tout. C'est aussi au ciel que se trouvent maintenant les âmes des chrétiens qui sont décédés dans l'état intermédiaire en attendant la résurrection. Lorsque l'on quitte cette vie, lorsque le corps s'affaisse et que l'âme remonte auprès du Seigneur, elle est recueillie auprès du Christ et elle est là, dans la conscience de la présence du Christ, dans le ciel. Je vis dans le ciel les âmes de ceux qui avaient été immolés, nous dit le livre de l'Apocalypse au verset 6. Et les croyants sont ainsi même associés au règne du Christ. C'est là aussi que les prières de tous les saints sont apportées au ciel. Cela dit vraiment cette réalité qui est là très forte et qui détermine la suite de l'histoire sur la terre. Et c'est du ciel que Jésus reviendra pour le renouvellement de toutes choses. C'est aussi du ciel que vient la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, nous dit Apocalypse chapitre 21. Autrement dit, la nouvelle création reçoit sa gloire du ciel. Alors ça pose quand même la question de dire quelle est notre espérance. Est-ce que notre espérance c'est habiter au ciel, aller au ciel, ou est-ce que notre espérance c'est habiter sur une nouvelle terre? Alors, nous avions dit la dernière fois, notre espérance c'est être avec le Christ, c'est lui qui est notre espérance, notre vie est caché en lui, nous dit Paul dans Colossiens 3, verset 3. Quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, nous dit la première épître de Jean au chapitre 3. Il nous faut donc bien suivre le Christ pour dire le sens de notre espérance. Elle est vraiment en lui. Alors ce qu'il faut, je pense que vous le savez bien, c'est il faut souligner le fait que toute une piété et toute une piété évangélique a développé la conception céleste de l'espérance chrétienne. Qu'attendons-nous pour l'avenir? Qu'attendons-nous de la vie éternelle? si vous demandez ça à bien des personnes, on attend d'être pour toujours au ciel avec Jésus. C'est peut-être ce qu'on vous a enseigné quand vous étiez enfant, c'est peut-être ce que vous avez enseigné à vos enfants, c'est peut-être ce que vous pensez aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'espérance chrétienne? C'est être au ciel avec Jésus pour l'éternité. C'est ce que l'on dit assez souvent. C'est ce que chantent certains de nos cantiques. Je cite un de ces cantiques. « Près de toi, ma place est prête au ciel pour l'éternité. » C'est l'espérance d'être au ciel avec Jésus pour l'éternité. Certains d'entre vous, alors je ne sais pas si c'est le cas des plus jeunes générations, ont été peut-être marqués par le récit du voyage du pèlerin. Alors, le voyage du pèlerin, c'est une allégorie de la vie chrétienne qui a été écrite par un baptiste du XVIIe siècle qui s'appelle John Bunyan. Et donc, c'est un personnage qui s'appelle Chrétien. Et ce personnage, on raconte un peu sa vie, tout ce qu'il rencontre dans sa vie. Et c'est une parabole de ce qu'est la vie d'un chrétien, justement, son nom le dit. Et la trajectoire de ce chrétien dans le voyage du pèlerin, c'est quelqu'un qui quitte la ville de destruction, il laisse femme et enfants pour marcher vers la cité céleste. Et l'espérance, c'est le ciel. Et quand il arrive à la porte du ciel, il entre dans l'espérance. Et bien des représentations de la vie éternelle pour les chrétiens, c'est d'être dans le ciel avec les anges, chantant pour l'éternité la louange du Seigneur, irradié de ses lumières. Ça, je pense que si vous avez une certaine culture chrétienne, vous avez entendu ça, vous avez été nourri par cela, ça fait partie des choses qu'on a entendues. Moi, j'ai vraiment baigné là-dedans aussi. Est-ce qu'il y a des appuis bibliques à cette manière de voir? Oui, bien sûr, il y en a, même s'il faut les questionner. D'abord, ce qui permet d'espérer la gloire au ciel avec le Seigneur, c'est le thème de la gloire, justement. L'espérance de la gloire, la gloire de Dieu, on partagera la gloire de Dieu. Mais le ciel est le lieu de la gloire de Dieu. Et être glorifié, c'est participer à cette gloire-là. Jésus est monté au ciel, il allait nous préparer une place, c'est donc là que l'on vivra pour l'éternité. Et c'est une première manière dont on peut justifier de penser, oui, on sera au ciel avec le Seigneur, il allait nous préparer au ciel, une place là-haut, on sera avec lui pour l'éternité. Il y a aussi tous ces textes qui nous disent que notre cité est dans les cieux. Philippiens 3, verset 20, notre cité est dans les cieux. Ou que notre héritage nous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, verset 4, notre héritage nous est réservé dans les cieux. Notre vie est cachée en Christ. Il nous faut penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Colossiens 3, verset 2. Tout cela, ça oriente vers l'idée de dire, mais oui, si notre héritage, si notre cité est dans les cieux, si notre héritage nous est réservé dans les cieux, ben c'est là qu'on va passer l'éternité. Et puis toute la symbolique de la terre promise renvoie à un autre pays. On quitte l'Égypte, on traverse le désert, on va vers la terre promise. Analogie, on vit notre vie humaine, on traverse la mort, et ensuite on est au ciel pour l'éternité, la terre promise. Tout cela, ça amène à penser de cette même façon. Et puis il y a l'assurance aussi que ceux qui meurent aujourd'hui sont au ciel avec le Christ dans la béatitude. Ça, c'est certain, c'est dit. L'apôtre Paul dit, voilà, c'est son espérance face à la mort. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. De Timothée 4, 18, c'est juste avant sa mort qu'il dit ça. Et l'on peut dire, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Ils sont là déjà au ciel. Et c'est facile de se dire, ils nous précèdent et ils nous indiquent notre destination finale. Ils anticipent l'éternité. Et puis, il y a l'affirmation de Jésus que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles à lui ne passeront pas. Ça laisse entendre que la terre, c'est fini, et donc on passera à autre chose. Et du coup, espérance dans le ciel. C'est à partir de tout cela qu'on a développé cette vision de l'espérance chrétienne, où notre espérance, c'est clairement la vie éternelle au ciel. Et beaucoup pensent comme cela. L'espérance, c'est la cité céleste. Comme je l'ai dit, j'ai été nourri de cette pensée-là, moi aussi. Je l'ai enseigné plus ou moins au début de mon ministère. J'étais pas très à l'aise avec une ou deux petites choses, mais c'est quand même comme ça que je pensais un peu des choses. J'étais toujours je pensais comme ça, mais j'étais toujours un petit peu gêné par le fait que dans l'Apocalypse, la différence entre la nouvelle terre et les nouveaux cieux demeurait. Hein? Alors, c'est bizarre quand même. Je dis l'espérance, la vie éternelle, c'est le ciel, avec tout pour toujours avec Jésus. Et je lis dans l'Apocalypse, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi cette différence entre nouvelle terre, nouveaux cieux, s'il n'y a que les cieux qui restent? J'étais un petit peu embêté quand même par ça. Voilà. Alors je me disais, mais le ciel où on sera pour l'éternité, c'est ça la nouvelle terre, en quelque sorte. Et puis il y a le ciel de Dieu au-dessus de tout cela. Bon, bref, toujours est-il que c'est une idée qui a été quand même très fortement véhiculée, que la vie éternelle, c'est vraiment être pour toujours au ciel avec Jésus. Quelle est la difficulté de cette conception céleste de l'espérance chrétienne? Parce qu'il y a difficulté quand même, quand on y réfléchit, et quand on veut harmoniser tous les textes bibliques. Il semble que la difficulté, c'est qu'elle décrit comme un aboutissement ce qui ne correspond qu'à une étape du projet de Dieu. Oui, il y a place pour le ciel en relation avec la vie des chrétiens, la glorification des chrétiens, mais c'est qu'une étape. Le Christ est remonté au ciel, oui, c'est juste. Mais le ciel doit le recevoir pour un temps limité, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Acte 3, verset 20. Autrement dit, le ciel n'est pas forcément l'étape ultime pour Jésus. Les chrétiens décédés sont au ciel, en la présence du Seigneur, oui, dès leur mort, oui, et c'est une consolation pour nous. Mais cela, c'est l'état intermédiaire, dans l'attente de la résurrection. Ce sont les âmes de ceux qui sont morts qui sont au ciel, auprès du Seigneur. Ils se reposent de leurs œuvres, ils chantent les louanges du Seigneur, ils entonnent le cantique de l'agneau devant le trône de Dieu, mais ce n'est qu'une étape. L'espérance promise par le Seigneur est que le Seigneur les ressuscite, c'est-à-dire que le Seigneur leur donne un nouveau corps pour une nouvelle étape, lors du retour en gloire du Seigneur. Et nouveau corps veut dire une nouvelle vie différente, adaptée à autre chose que simplement une vie spirituelle, un état sans corps dans le ciel. La nouvelle Jérusalem est au ciel, c'est vrai. On l'appelle la Jérusalem céleste, Hébreux 12, la Jérusalem d'en haut, Galates 4. Donc c'est vrai que la nouvelle Jérusalem est au ciel, c'est vrai aujourd'hui. Mais elle n'est pas au ciel pour y rester. Elle est au ciel pour descendre sur la terre. Elle est au ciel pour être donnée à la nouvelle terre. Et c'est ça ce qu'il est décrit lorsque l'on parle dans Apocalypse 21 de la nouvelle Jérusalem. Elle est là, elle est donnée à la terre. On va juste lire ce texte parce que c'est un texte qui est important. Apocalypse 21, versets 1 à 6. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle ou la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il écrit, et il dit, écris, ces paroles sont certaines et vraies. Et il me dit, c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de la vie gratuitement. Tel est l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. Que voit-on dans ce texte? Il est question de dire, Dieu fait toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles, verset 6. Et c'est la réalité définitive, cette fois-ci, pour l'éternité. Le jugement a eu lieu, on passe à autre chose. C'est vraiment l'état définitif. Qu'est-ce qu'on constate aussi? Qu'il y a une différence qui subsiste. Je vis dans cet état nouveau, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous avez vu qu'il reste la différence. Et il y a là cette nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, mais comment est-ce qu'elle nous est décrite? Il y a un mouvement descendant. La nouvelle Jérusalem, elle est préparée au ciel et elle descend du ciel, c'est ce qui nous est dit. Je vis la nouvelle Jérusalem qui descendait, la ville sainte qui prête comme une épouse, et je la vis descendre du ciel, descendre d'auprès de Dieu pour venir sur la terre. Et quand elle vient sur la terre, on dit, mais voilà maintenant la demeure de Dieu. Vous voyez, c'est ça le mouvement. C'est ça le mouvement. Donc la nouvelle Jérusalem que Dieu prépare, cette habitation achevée de Dieu, elle est là et elle descend toute prête, magnifique, achevée, et elle vient sur la nouvelle terre dont il est question. Et c'est ainsi que tout est transformé. Donc vous voyez, il faut bien voir la chose. On parle, oui, en effet, notre cité est dans les cieux. Parce que la nouvelle Jérusalem est en train de se préparer là dans le ciel. Mais tout cela est appelé à descendre sur la nouvelle terre. Et si on suit le mouvement des choses, l'espérance, elle n'est plus dans les cieux, mais elle est là où le Seigneur fait descendre la nouvelle Jérusalem sur la nouvelle terre. Et c'est pareil pour Jésus. Lors de son retour, il descend du ciel, il descend avec les siens. Mais il descend avec les siens pour venir, pour juger la terre, pour la renouveler. Il est dit que ceux qui sont les chrétiens ressusciteront et accompagneront le Christ dans sa venue, dans son triomphe. Tous ceux qui seront morts déjà avant que le Christ ne vienne feront comme le cortège du Christ qui revient en gloire. Mais ils viennent pour descendre sur la terre et pour habiter la nouvelle Jérusalem qui est donnée à la terre une fois que tout sera renouvelé. Ils ne viennent pas pour repartir au ciel illico presto. Donc c'est pas du tout ça le mouvement. Tout le mouvement vient vers la terre. Alors oui, notre héritage nous est réservé dans les cieux. Mais quand on dit que notre héritage est réservé dans les cieux, ça veut dire pour l'instant, il est tenu en réserve dans les cieux. Mais notre héritage n'est pas d'être éternellement dans les cieux. Notre héritage, il est tenu aujourd'hui en réserve dans les cieux, et c'est ce qui descendra sur la nouvelle terre pour pouvoir vraiment faire toute chose nouvelle et tout transfigurer. Il nous faut chercher les choses d'en haut, parce que oui, le Christ est en haut aujourd'hui, mais ce Christ qui est en haut aujourd'hui descendra sur la terre pour la renouveler pleinement et pour faire toute chose nouvelle. Tout sera renouvelé et nous habiterons cette nouvelle terre avec un corps nouveau, un corps glorifié, inaltérable, à l'image du corps de résurrection de Jésus. Voilà, ce, me semble-t-il, ce qu'on peut dire pour nous aider à comprendre ce mouvement entre quelle est notre espérance entre le ciel ou la terre. J'espère ne pas déstabiliser qui, mais je pense qu'il faut qu'on essaye ensemble de dire ce qu'est la pensée biblique et j'ai voulu le faire de cette façon pour nous aider à comprendre de quelle sorte, oui, d'un côté, oui, nous avons une espérance céleste, mais il faut suivre tout le mouvement de la révélation pour pouvoir faire la synthèse globale. Donc ce qui veut dire que l'espérance chrétienne ne nous fait pas échapper à la terre, ni à un mode d'existence, on va dire, corporel, où on entre en contact, où on entre en interaction avec un monde distinct de nous. Maintenant, une autre question se pose quand même, c'est quelle est-elle cette nouvelle terre dont on parle? Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Avec une question, Est-ce que cette nouvelle terre, est-ce que c'est notre terre, notre bonne vieille planète Terre, comme dit le capitaine Haddock, est-ce que c'est notre terre ici renouvelée, ou est-ce qu'il faut considérer que c'est une autre planète qu'on appellera Terre par analogie avec la première? Oh, c'est une question un peu spéculative, hein. Est-ce que c'est la nouvelle Terre est notre Terre à nous, renouvelée, ou est-ce que c'est une nouvelle planète une fois que le Seigneur a tout chamboulé lors de son retour? Comment résoudre cette question-là, si on peut le faire? Il faut être prudent. Tous les textes qui parlent du retour de Jésus et du renouvellement de toutes choses décrivent cet événement comme un immense ébranlement. Et je crois que c'est la première chose qu'il faut souligner. Tous ces textes en parlent comme un immense ébranlement. Jésus le premier en a parlé. Il reprend le langage de l'Ancien Testament sur le jour du Seigneur, qui est un jour de bouleversement cosmique. Matthieu 24, versets 29 à 31. « En ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Donc là, on voit des ébranlements cosmiques. Il y a un vrai ébranlement au moment du retour du Seigneur. La deuxième épître de Pierre dit la même chose, 2 Pierre 3, verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre et ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Et donc on voit là que cet ébranlement est vraiment sévère, hein. Ça va loin. C'est pas juste une tempête tropicale qui vient secouer la terre, hein. C'est un vrai ébranlement. Et ceci au point que Jésus peut dire aussi dans Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors c'est pour dire un ébranlement sévère. C'est évident, c'est ce que disent tous les textes. La question quand même, c'est de dire jusqu'où va cet ébranlement? Est-ce qu'il faut considérer qu'il va jusqu'à une destruction totale de la terre? Ou est-ce qu'il faut voir cet ébranlement plutôt comme une purification profonde du monde pécheur qui est le nôtre? Et là, il y a un débat sur ce qu'est la nouvelle création. Est-ce que la nouvelle création, c'est un nouveau départ à zéro après avoir tout détruit? Le Seigneur explose complètement la terre et il crée une nouvelle terre ex nihilo, hein? Ou est-ce que ce qu'on appelle la nouvelle création, c'est le renouvellement en profondeur de la terre qui a été tellement meurtrie par le mal, purification profonde par le feu de tout ce qui a été mauvais pour pouvoir refaire quelque chose de neuf, mais à partir de l'existant? Alors, les deux sont possibles du point de vue de la compréhension des textes qui décrivent l'événement. On peut comprendre les textes qu'on a lus, soit dans un sens, soit dans un autre. Quels sont les arguments dans un sens, dans un autre? Les arguments pour la destruction totale sont le mot de Jésus, quand il dit « le ciel et la terre passeront ». Mais il faut quand même comprendre que cette expression « le ciel et la terre passeront » peut se comprendre aussi quand même dans le sens d'un ébranlement important qui manifeste le jugement de Dieu sur la terre. Hein? Le monde tel que nous l'avons construit, tel que nous le connaissons, le monde avec tout ce quoi il a abouti suite au mal, etc., ce monde avec tout le système qu'on lui a imposé, ce monde-là, oui, sera ébranlé complètement. Oui, ce monde-là sera purifié par le feu, sera jugé, sera ébranlé totalement. Il n'en restera rien. Tout sera jugé. Dans ce sens-là, le monde passera. Ce monde-là sera passé totalement. Hein? Mais ça n'oblige pas forcément à dire que toute la planète Terre est explosée. Hein, c'est le monde tel que nous l'avons construit, hein, avec tout le mal, etc., qui sera complètement purifié. Donc si on parle d'un jugement en profondeur, du monde, on peut aussi rendre compte du langage qui dit le ciel et la terre passeront. La deuxième épître de Pierre semble parler d'une description lorsqu'elle dit que le ciel passe avec fracas, quand elle parle des éléments du monde qui sont embrasés, de la terre consumée, et cela peut aller avec l'idée d'un anéantissement. Mais dans le contexte, l'auteur de la deuxième épître de Pierre a comme référence mentale le jugement du déluge. Il parle du déluge et il rappelle que le monde d'alors a péri, submergé par l'eau. Et il prolonge en disant « De la même façon, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. » Et donc là, il y a un parallèle entre le déluge par l'eau et le déluge par le feu lors du retour de Jésus-Christ. Le déluge par l'eau a été un vrai jugement sur l'humanité, etc. Sur le monde d'alors. Le monde d'alors a péri. Le monde d'alors, ce qu'avaient construit les hommes, etc. Mais sans que ce soit la destruction de la terre, puisque c'est sur cette même terre que Noé et ses fils ont pu reprendre ensuite la vie. Ce qui veut dire que l'analogie du jugement par le feu, comme le déluge que le Seigneur apportera lors de son retour, du jugement non par l'eau cette fois-ci, mais par le feu pour purifier tout ce qui est mauvais radicalement, extraire tout ce mal purifié fondamentalement, cette analogie permet encore de dire oui, on peut penser que c'est cette terre-là qui subit un jugement terrible, oui, mais qui subsiste malgré tout, tout comme lors du déluge d'eau, la terre a pu continuer à subsister et un nouveau commencement a pu se faire de cette façon-là. Simplement avec l'idée que lors du déluge de feu, du retour de Jésus-Christ, le renouvellement est plus complet et total. L'humanité avec Noé restait pécheresse, alors que suite au retour de Jésus-Christ, au déluge de feu du jugement, à ce moment-là, c'est une nouvelle humanité où le mal n'est plus. Alors voilà, on ne peut pas vraiment trancher simplement sur les textes descriptifs. Il faut prendre plusieurs d'autres considérations pour aider à la décision. Je vous ai dit que même les textes qui semblent les plus durs semblent pouvoir se lire aussi dans une perspective d'un jugement très sévère, avec un vrai ébranlement du monde. Et on peut dire que le monde d'alors, même suite à un jugement qui ne détruirait pas toute la terre, ce monde-là implique vraiment un vrai recommencement. Et je crois qu'il faut alors, pour dire, personnellement, je suis quand même pour aller plutôt vers l'idée que c'est notre terre qui est renouvelée à partir des éléments suivants. C'est d'abord les textes de l'Ancien Testament et d'Ésaïe en particulier. L'espérance que propose Ésaïe, c'est clairement le renouvellement de notre terre. C'est à Sion qu'on revient, toutes les nations, on savait ce qu'était la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est vraiment là que toutes les nations viendront pour adorer le Seigneur. C'est vraiment une espérance pour Jérusalem aussi, donc il y a une continuité vraiment, alors continuité qui est transfigurée par tout ce que le Seigneur apporte sur la nouvelle terre, oui, venant du ciel, mais c'est quand même une vraie continuité, c'est une espérance pour Jérusalem au temps d'Ésaïe que de savoir quelle sera là encore le lieu de rassemblement de toutes les nations lorsque le Seigneur fera toutes choses nouvelles. Et c'est une consolation aussi pour la terre, que tout ce qui était tellement blessant avant devient harmonieux après. C'est une façon de réparer aussi tout ce qui a été si mauvais. Et donc, l'orientation du texte d'Ésaïe va dans ce sens-là. De même, le texte de Romains 8 nous rappelle que c'est notre création actuelle qui attend la délivrance. La délivrance, c'est d'être... Et la délivrance, c'est pas d'être détruite, mais c'est d'être libéré de la vanité, libéré de la souffrance, libéré de ce non-sens, de la mort. Et Paul fait une analogie en disant la création souffre les douleurs de l'enfantement. Et c'est l'idée que finalement, ce monde qui souffre, il va pouvoir quand même renaître à quelque chose. Quand on parle des douleurs de l'enfantement, c'est une naissance à quelque chose, mais ça suppose quand même plutôt la continuité. Et le fait de voir la continuité, c'est ce qui permet aussi de parler de la nouvelle création en termes de salut. La nouvelle création, c'est le salut de la terre. C'est pas juste le jugement de la terre. c'est le salut de la terre, parce que le Seigneur guérit d'une certaine façon. Si on détruit pour recommencer ailleurs, il y a jugement sur tout. Si on purifie, si on nettoie profondément, permettre ensuite vraiment que quelque chose de neuf se développe à nouveau, à ce moment-là, on sauve, c'est une œuvre de salut. Hein, et donc, cette vision des choses est beaucoup plus pleine, beaucoup plus cohérente et beaucoup plus liée à l'idée de générale de salut. Le Christ apporte le salut de toute chose. Hein. Et ça dit aussi cette réconciliation de toute chose avec, opérée par le Christ. C'est aussi ce qui permet de faire un lien entre la nouvelle création et notre salut à nous. Le Seigneur commence une nouvelle création en nous. Mais le Seigneur n'a pas tout détruit en nous pour commencer son œuvre de recréation, de régénération en nous. Il fait des choses dans la continuité. Et l'épître de Jacques nous dit que nous sommes en quelque sorte les prémices, les premiers fruits de ces créatures. Et donc ce renouvellement qui se fait déjà dans notre vie est annonciateur du renouvellement encore plus complet que le Seigneur opérera pour toute la terre. Ça va aussi dans cette idée de dire que le Seigneur est là, et non pas pour détruire complètement la terre, refaire autre chose de complètement différent, mais de sauver justement cette terre et de la restaurer dans son intégralité. Et aussi, c'est ce qui permet aussi de rendre compte de l'œuvre du Christ central et de la totalité de l'œuvre du Christ. Le Christ n'est pas juste le Dieu puissant qui vient juger le monde et refaire un autre monde, mais il est aussi celui qui a donné sa vie pour permettre que tout le mal du monde soit que le mal soit dépassé, soit pardonné, pour permettre que tout cela soit purifié. C'est quand même ça son but. Et la nouvelle création, si la nouvelle création est renouvelée, c'est aussi quelque chose qui va dans ce sens-là, de dire que le Seigneur Jésus a une œuvre de salut. Notre terre a tellement détourné de son Créateur, le mal est là partout, a tellement gâché de choses, c'est satisfaisant que de dire, grâce à l'œuvre du Christ, tout cela sera restauré, tout ce mal sera redressé, et on pourra repartir sur quelque chose qui sera complètement nouveau. Donc cela lie vraiment l'œuvre du Christ d'une manière totale, et cela fait aussi de la nouvelle terre ça fait de la nouvelle création une œuvre de salut. Et donc c'est peut-être pour cela que je vous invite plutôt à réfléchir à la nouvelle création en termes de dire voilà, le Seigneur va purifier et ébranler les choses, jugera le monde avec droiture et on verra l'importance de ce jugement, mais en même temps il préserve la terre. Et il la renouvellera. Alors bien sûr, il y aura des choses reconnaissables, certainement, il y aura des choses qui seront complètement changées, bouleversées, mais on pourra dire, oui, le Seigneur nous a délivrés, et oui, le Seigneur enfin a fait de cette terre qu'il donne à son peuple quelque chose qui soit libre de tout mal et où on puisse développer une vie totale en pleine harmonie. Alors voilà, tout cela, me semble-t-il, dessine un peu les contours de notre espérance chrétienne. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir en vue une espérance qui a aussi un côté terrestre. Ce n'est pas qu'on est accroché à la terre absolument, absolument. Mais je crois que c'est plutôt l'amour de Dieu pour le monde qui s'exprime de cette façon-là. Et le fait aussi que le Seigneur ne veut pas faire de nous des anges, ne veut pas faire de nous autre chose que des hommes et des femmes. Pour la vie éternelle, il veut qu'on puisse vivre dans toutes les potentialités que donnera la nouvelle création, une vie d'homme, une vie de femme, dans un monde, sur une terre, où il y aura des choses à faire, des choses à vivre, où il y aura des œuvres à accomplir. Et on peut voir aussi cette nouvelle création dans le sens vraiment d'une œuvre d'une vie qui nous implique totalement dans toutes les dimensions de notre être, mais en pouvant anticiper aussi, même s'il ne faut pas trop spéculer, on pourra anticiper que le Seigneur fera tout cela avec une grande générosité, une grande lumière et immensément de gloire. Alors oui, nous avons une belle espérance fondée sur le Christ, une espérance vraie, et nous sommes appelés à vivre notre vie présente, en soupirant parfois, oui, mais en soupirant dans l'espérance de ce que le Seigneur apportera lors de son retour et pour l'éternité. Voilà ce que je voulais essayer de vous dire pour éclairer un petit peu ce sujet avec les points plus sûrs et puis les endroits où on fait des choix que j'ai essayé au moins de vous aider à expliciter de la manière la plus honnête possible.